vagabondage.
Une émission proposée par Thierry Margot, accompagnée de
Cédric Dimos
et avec Tao à la technique.
Balade intemporelle à la rencontre des gens, des choses, des musiques et des mots. Voilà, nous vous proposons une balade insolite pour ce 580e vagabondage. Et oui, avec Michel Rédal, un troubadour plutôt singulier. Il voyage, jongle avec les mots, avec chaque lettre, avec chaque signe. Il communique et transmet son art ancestral au fil de ses rencontres sur les chemins du monde. En ces temps où écrire est un acte posé sur un clavier alphanumérique, Michel ose prendre la plume et nous offre à redécouvrir l'art de ce geste qu'on appelle la calligraphie. L'écriture. On le retrouve juste après un titre qu'on va passer. Cédric, ne t'en étonne pas, il s'agit de Pascal Parizeau. Et pourquoi, d'après toi ?
Eh bien, si mes souvenirs sont bons, on a écouté Freda la semaine dernière. D'ailleurs, ouais. J'ai eu le plaisir, parce que tu me l'avais
proposé. Et que tu ne m'as toujours pas ramené.
Non. Parce que je m'en délecte dans la voiture, donc Freda et donc Pascal Parizeau. Et son acolyte sur les galettes précédentes.
Voilà, notamment sur Radiomatique, reprise des années 60. Et donc, effectivement, comme on a parlé, on a évoqué à l'occasion de la présentation de l'album de Frida, L'Ancoli, eh bien, découvrons ce qu'a fait, d'ailleurs, c'était en 2010, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, Pascal Parizeau qui sortait un album thématique qui s'appelle Bête en stock. En gros, on est tous des bêtes, quoi.
J'ai découvert un truc complètement dingue qu'on m'avait toujours caché jusque-là. J'ai découvert que vous et moi, on est des bêtes, et ça je ne le savais pas. On est des bêtes,
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 on est des bêtes.
Comme les vaches et les hiboux. Alors voilà, en gros, pour pas faire compliqué, on est des animaux. Habillé, une énorme bande de bestioles auxquelles il ne manque même pas la parole. On est des bêtes,
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 on est des bêtes.
Comme les vaches et les caribous, si on ne se trimballe pas tout nu, c'est parce qu'on n'est pas assez poilu. On a perdu en 4000 siècles nos poils d'Australopithèque. On est des bêtes,
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 comme les vaches et les gnous. Ma sœur c'est une bête,
on est des bêtes,
comme les vaches et les hiboux, on est des bêtes,
on est des bêtes,
mon frère c'est une bête,
on est des bêtes,
mes parents c'est des bêtes,
on est des bêtes,
comme les vaches et les caribous, on est des bêtes,
on est des bêtes,
le facteur c'est une bête,
on est des bêtes,
la maîtresse c'est une bête. Chez les hiboux, on est des bêtes,
on est des bêtes.
Le président c'est une bête,
on est des bêtes.
Le pape c'est une bête,
on est des bêtes.
Comme les vaches et les caribous.
Et comme disait Dylan, l'homme a dota d'un nom chaque animal. Donc c'est pour ça que ce soir on peut vous présenter donc avec Thierry, Cédric, Tao et Michel. Bonjour. Donc voilà, tu nous rejoins, Michel, pour une émission. Alors c'est insolite par rapport aux invités qu'on a d'habitude, Cédric, parce que d'habitude, c'est des gens qui nous présentent un spectacle, un musical souvent, un disque, qui vont chanter une chanson. Michel, lui, il n'est pas là pour ça ce soir.
Ben non, Michel est là pour nous parler de calligraphie.
Et alors, il nous a fait une petite démonstration, on a un avant-goût, parce que moi, je n'avais même pas remarqué que mon nom il était aussi beau quand il est écrit. Hein. Donc, c'est tout ce qui va rester de moi qui va être à peu près potable maintenant.
Oui, alors, il faut dire que donc Michel Reynal, que l'on reçoit ce soir, nous a dédicacé sa carte de visite avec nos prénoms très joliment calligraphiés derrière. C'est très, très beau. Alors, il n'y a pas l'image à la radio, mais
on peut vous le dire.
On le commande.
Alors, il va nous expliquer un petit peu tout ça, parce qu'il y a plein de mots-clés qui décrivent un petit peu ce qu'on a sous les yeux, l'art de la calligraphie. Alors, Michel, il faut savoir que toi, tu as un métier qui n'a absolument, mais alors, rien à voir avec la calligraphie.
Ce sont des écritures.
Mais ce sont des écritures. Dis donc, tu as ton métier et alors, c'est quoi? C'est la passion qui au départ t'anime pour... comment est venu ce goût de parce qu'on va parler, tu fais énormément de choses, on va en parler, mais j'aimerais savoir comment est arrivée cette passion
Alors en fait, j'écris depuis une trentaine d'années. Alors, est-ce que c'est parce qu'à l'école, la maîtresse me donnait des lignes à copier
Bah moi, je peux te dire, j'en ai chopé, mais ça m'a pas donné le goût de l'écriture, en tout cas.
Alors, en fait, depuis très jeune, je recopie des textes, tous les textes de Brassens, de Brel. J'ai des carnets entiers où je copiais aussi. Stylo, tout simplement les chansons, voilà. Et puis
il n'y avait pas de photocopieur en temps de...
Il n'y avait pas de photocopieur. Et puis petit à petit, j'ai laissé tomber le stylo et j'ai découvert la plume sergent-major. Ouais. Et je me suis appliqué.
Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là, hein, la plume sergent-major.
Eh oui, c'est même, d'un autre âge.
Ça faisait partie de la liste du trousseau de l'école qu'on était. Parce que j'étais obligé de ramener. T'as pas connu ça, Cédric?
Non, violette le buvard.
Je suis désolé, les jeunes, mais j'ai pas connu ça.
Voilà, et donc petit à petit, je me suis appliqué à écrire. Et puis, en fait, j'ai fait le chemin inverse de l'histoire de l'écriture. Donc, je suis parti du stylo, la plume sergent-major. Et ensuite, j'ai découvert l'écriture médiévale. Donc, l'écriture médiévale qui se fait avec une plume à bout carré. La gestuelle est un petit peu particulière. Et en fait, chaque lettre est décomposée en gestes très simples. Lorsque j'explique ça aux enfants, c'est des petites lunes, des petits serpents et des petits bâtons que l'on assemble ensemble et on construit des lettres.
Ouais, c'est... Alors, ton activité, elle se décompose en plusieurs titres. Il y a le travail de copiste, le travail de démo, le travail de transmission. Donc, on va essayer un petit peu d'explorer ces pistes. J'ai vu, quand tu as un site, il faut en parler tout de suite parce qu'on risquerait d'oublier après. Hein, on peut aller visiter ton site. Mais déjà, si on fait Michel Reynal sur Google... on trouve énormément de choses. Et à un moment donné, on glissera le titre. Mais il y a un site où on peut retrouver par thème hein, toutes tes activités.
Absolument, oui, oui. Alors, donc c'est un site que je tiens à jour pour indiquer aux gens tous les endroits où je vais. Et sur ce site-là, effectivement, on peut voir des illustrations de l'ensemble des manuscrits que j'ai écrits. On peut voir vraiment plein de choses. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, il y a Facebook. Donc, j'ai beaucoup d'amis.
Et à partir de Facebook, on peut aussi retrouver ton site. Mais ton site, on peut le retrouver en adresse, même si on ne cite pas le nom là. On arrive à retomber dessus.
Oui, sur Google, on tape Michel Reynal et on tombe assez facilement sur mon site.
Ok. Donc, alors, je vous invite à y aller. Si vous écoutez, précipitez-vous sur vos ordinateurs et puis allez-y. Hein, tapez Michel Rédal, vous allez voir, et écoutez l'émission en même temps. Comme ça, vous aurez les commentaires en direct. Alors, on va parler dans un premier temps du travail de copiste. Si tu...
Alors, oui, donc le travail de copiste, en fait, c'est mon voyage intérieur, ça. Ça, c'est le travail de copiste se fait au calme, à la maison. J'ai mon petit atelier avec mes feuilles, mes parchemins, mes plumes, mon encre, tout est installé. Et je choisis au départ un texte. Donc j'ai écrit des manuscrits, donc des textes sacrés. J'ai écrit beaucoup de textes sacrés, copies de l'Évangile, du livre des Psaumes, du livre de Job.
Mais aussi, ce que j'ai vu, moi, j'aimerais bien le voir. Tu as, et parce que c'est le premier texte qui nous est transmis, c'est le roman de Renard.
Alors, c'est pas le roman de Renard, c'est la chanson de Roland.
Ah, la chanson de Roland. La chanson de Roland. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait une...
Ça, c'est un des derniers manuscrits que je viens de terminer.
12e siècle, quand même.
Alors, voilà, c'est le 12e siècle. Entre-temps, j'ai écrit les prophéties de Nostradamus, j'ai écrit le livre des runes. Les runes, c'est une écriture viking, qui est une écriture un petit peu particulière, une écriture divinatoire. Les Vikings écrivaient ça sur des pierres, et puis les runes décidaient s'il fallait partir en guerre ou pas. Voilà. Et donc le
dernier... Il y a des traces de ça
que... Ah, oui, bien sûr. Oui, oui. Les runes, l'écriture runique est assez... assez connu, c'est...
Voilà. Nous, on est un culte. Hein, donc,
Et chaque signe, en fait, qui est associé à un autre signe, veut dire quelque chose. C'est une écriture divinatoire.
Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, la calligraphie, dans certains coins du globe, c'est lié à la philosophie, ou aux sciences occultes, ou aux sciences divinatoires.
Alors, on peut effectivement parler de l'histoire de la calligraphie. Donc, au départ, l'homme a commencé à écrire pour fixer la mémoire. Donc, les premiers signes de calligraphie, d'écriture, on les trouve moins 3300 avant Jésus-Christ. Ce sont des signes sur des tablettes d'argile qui servaient simplement à se rappeler d'une quantité de récolte ou d'une appartenance de tel ou tel terrain. Voilà. Petit à petit, l'écriture s'est adressée aux dieux. Et l'Égypte est un bel exemple de ça. Donc les hiéroglyphes, on change de support, on va passer au papyrus. Et donc le scribe va être ce lien entre les hommes et les dieux, entre les rois et les dieux. Et le rôle du scribe était éminemment important. Et,
oui. D'ailleurs, il y a l'écriture était liée au pouvoir aussi.
Absolument.
Tout le monde ne devait pas savoir écrire.
Il y avait très très peu de gens qui écrivaient. Donc effectivement, celui qui détient l'écriture détient le pouvoir. Et donc on peut parler de l'écriture du pouvoir et du pouvoir de l'écriture.
C'est toujours un peu comme ça, un petit.
Oui, c'est un petit peu comme ça. Et après, au fil du temps, en fait, l'écriture est devenue. On s'est mis à s'écrire soi-même. Mmh. Alors qu'au départ, on ne s'écrit pas soi-même. On écrit des choses de la vie, mais petit à petit, on s'est mis à écrire des notions de liberté, des notions de voyage, l'inconscient, tout ça. Au départ, l'écriture n'était pas faite pour ça. Mais aujourd'hui, effectivement, l'écriture sert à s'écrire soi-même.
Alors, toi, Cédric, à l'entendre, je sens que c'est passionnant et qu'on ne va pas du tout atteindre nos objectifs d'arriver à... Non, mais souvent, on a un objectif qui est au moins de pouvoir dire tout ce qu'on a à dire et passer tous les titres qu'on... Mais on ne le respecte jamais et on dit à la fin, comme on ne peut pas le respecter, bon, on dit on s'en fout après tout. et on a une devise, c'est pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire la semaine prochaine. Donc,
notre objectif n'est surtout de ne pas tenir nos objectifs.
Voilà. Donc, on va
tout de suite... La liberté totale.
On on va revenir hein, sur le travail de copiste et tout ça. Et on va écouter d'abord un titre de Franck Monnet qui s'appelle justement « J'aime t'écrire ».
J'adore t'écrire, même si t'as pas le temps. Mes mots se déplient vite en papillons érubescents. J'adore t'écrire une heure pas si souvent. Pour lire mes âneries, ton Jules doit trouver ça marrant. Depuis des mois, j'osais plus, on ne s'est guère vu qu'au hasard. De fait, bruyante et bizarre, je me confine sagement dans des romances morbides. Ces garces sont comme des crachoirs. J'adore t'écrire toujours en m'appliquant. Des pages écrites petites, je garde les brouillons pendant mille ans. J'adore t'écrire, c'est vieux, je sais bidon. C'est juré, c'est promis, dès que tu te lasses, tu me réponds. Trouve lâche, sûrement, mais comment s'improviser? Docile et goinfré d'espoir, sans palindrome, sans cadence, sans rime, sans jeu de mots con. Je te laisse, j'appelle un de ces soirs. J'adore t'écrire, j'appelle quand tu me manques. J'adore quand tu me dis, en fin de semaine j'aurai du temps. J'adore t'écrire, et même si à présent j'accuse le coup, c'est sûr, on en rira bien dans mille ans. Que ma petite tête, elle a besoin qu'on lui répète les arguments qu'elle crut péniblement. Bouge-toi un peu, fais de ton mieux. J'adore t'écrire, si t'as pas le temps. Mes mots se déplient vite en papillons érubescents. J'adore t'écrire une heure pas si souvent. Pour lire mes âneries, ton Jules doit trouver ça marrant. J'adore t'écrire, j'appelle quand tu me manques. J'adore quand tu me dis, en fin de semaine j'aurai du temps. J'adore t'écrire, et même si à présent j'accuse le coup, c'est sûr, on en rira bien dans mille ans. On en rira dans mille ans. Dans Milan, on en rira dans Milan, on en rira dans Milan.
Voilà, Voilà, tout le monde aura remarqué que la petite erreur, c'est pas j'aime, c'est j'adore. C'est mieux, non?
Franck Monet, on disait ça tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Franck Monet.
Ouais, c'est
cet album qui s'appelait Les Embellis date déjà de
2000.
De 2000.
Eh oui, Franck Monet.
Mais que fais-tu, Franck?
C'est pas le copain de Émilie Loiseau, non? Ou, en tout cas, ils ont fait des choses ensemble. Enfin, des choses de la création. Enfin, ah oui, on s'en sort pas. Hein, ça peut donner un enfant. Là. Bon, écoute, on va passer à autre chose. Donc, on revient à Michel Reda, à nos moutons et à l'écriture. J'ai bien compris que bon, tu es totalement passionné, mais alors au départ, tu l'as fait pour toi, tu découvrais un art, mais bon, c'est le geste, tu es passé de la plume sergent-major à la plume carrée, etc. Parce que tu as pris le goût de reproduire tel que les choses se faisaient au Moyen-Âge, non? C'était au Moyen-Âge qu'on avait ce style.
Voilà, absolument. Donc c'est de l'écriture médiévale. Donc tout à l'heure, tu parlais de la chanson de Roland. Donc la chanson de Roland qui se trouve à la bibliothèque Baudelaire.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'association d'idées entre la chanson de Roland et le roman de Renard, mais c'est parce que c'est de très anciens textes.
Et donc c'est un texte que j'ai copié, donc à l'identique du texte du XIIe siècle. Et d'ailleurs, je suis allé à la bibliothèque Baudelaire et nous avons fait des photos des deux manuscrits, donc celui du XIIe et celui du XXIe siècle. Juste une petite anecdote, le conservateur, lorsqu'il a sorti le texte, le manuscrit du XIIe siècle...
Ça a été en Angleterre, non? C'est à Oxford.
C'est Oxford, tout à fait, en Angleterre. Et donc il m'a dit que la dernière fois qu'il avait sorti ce manuscrit, c'était lors de la visite de la reine d'Angleterre à la bibliothèque d'Oxford.
Donc, quel honneur.
Un manuscrit
donc
qui
après
sort,
la reine d'Angleterre, voilà. Moi j'aurais préféré que tu passes avant. Quoi.
Alors j'ai pas fait mon jubilé de 60 ans d'écriture.
Donc, en tout cas, dans tous les cas, tu seras avant la prochaine ou le prochain.
Oui, c'est clair.
Et par exemple, la reprise d'un tel ouvrage qui doit être gigantesque, ça prend combien de temps?
Alors, c'est
comment
souvent,
ça se passe?
C'est souvent la question que l'on me pose, les manuscrits... Pour réaliser un manuscrit, donc
ça
par exemple
une vie.
Il faut savoir qu'un moine au Moyen Âge n'écrivait que 2 à 3 bibles dans sa vie. Donc ça donne une idée du temps qu'il faut pour réaliser un manuscrit. Pour la chanson de Roland, c'est pratiquement 2 ans d'écriture. Alors bien sûr, c'est pas 8 heures par jour. Hein, souvent, j'écris le soir, mais les manuscrits.
Ça t'a pris 2 ans?
Oui, absolument, oui. J'ai même...
À chaque fois, tu es allé à la bibliothèque là-bas?
Non, j'ai travaillé avec des fichiers informatiques qui m'ont envoyé. Mais il me fallait...
Une vraie collaboration, quoi.
Voilà, mais il me fallait un moment ou l'autre avoir un contact physique avec le livre. Et donc, même la reliure est à l'identique, une superbe reliure en plein cuir, avec un fermoir en cuir. C'est un très, très joli livre.
Et c'est toi qui l'as?
Bien sûr, c'est moi qui l'ai.
Non, mais t'aurais pu le remettre à un musée un truc comme ça. Non,
j'écris très très peu sur...
Donc c'était pour toi,
c'était
le cadeau que tu te faisais.
Absolument, mais ça c'est vraiment ma passion.
Et il faut bien, pour revenir tout à l'heure à ma première question sur comment c'est venu tout ça, au départ c'est bien ça, c'est pour toi. Tu fais les choses pour le plaisir de te retrouver avec un objet d'art et précieux et unique.
Je pense que c'est comme un peintre, hein. On peint rarement sur commande, on le fait au départ pour soi. Alors, bien sûr,
c'est comme si pour un chanteur, tu disais tout à l'heure, tu es un artiste au sens complet du terme, mais tu comparais tout à l'heure, d'ailleurs on parle de troubadour, hein, d'ailleurs, tu jongles comme les troubadours, tu jongles avec les mots et avec les lettres en tout cas, sauf qu'un chanteur, c'est comme s'il faisait un CD pour lui tout seul.
Oui.
Mais c'est pas tout à fait ça, parce que tu as le sens du partage, parce que tu en es amené à ça, on en parlera plus tard, mais au départ c'était ça.
Voilà, tout à fait, au départ c'est ça. D'ailleurs, si on parle de troubadour, j'ai écrit également un superbe roman qui s'appelle Flamenca, qui se trouve à la bibliothèque de Carcassonne, et ça raconte une histoire d'amour absolument merveilleuse, donc d'une femme qui s'appelle Flamenca, donc, et d'un jeune chevalier qui tombe amoureux d'elle.
Mais c'est, c'est une reproduction, pareil.
Absolument, c'est exactement.
Il est de qui ce...
Ben, en fait, l'auteur est anonyme. Ah ouais. Et donc, il se trouve, il y avait un exemplaire unique qui se trouvait à la bibliothèque de Carcassonne, et aujourd'hui,
il y en a deux.
Il y a deux
chez toi.
Il y en a un à la
maison. Où
Oh, en fait, tu sais, c'est qu'un peu d'encre.
Mais tu les montres quand même.
Un peu de papier. Oui, alors, je les montre souvent. Je les montre lors de toutes les manifestations que je fais sur les fêtes médiévales, sur les salons du livre.
Sur les estivales, là, tu y seras comme les autres années, non ?
Alors, sur les estivales, j'y vais, mais en fait, j'y serai pas sur tous les jours parce que, en fait, je suis très, très pris un petit peu partout.
Donc, tu vas nous le raconter tout à l'heure. C'est extraordinaire quand même d'arriver comme ça d'une passion, parce qu'on va en parler, mais ça t'a amené à travers le monde. Hein,
oui, on peut dire que ça m'a amené...
Alors, ton travail de copiste, alors, tu le dis, c'est les livres, des lettres, et alors donc, quand on voit ton écriture et la manière dont tu peux écrire, on retrouve ça quand on voit dans les musées les actes qui étaient faits, qui datent du temps du roi, etc. On retrouve ces écritures qui avaient... d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'écriture calligraphique, souvent, quand on l'appelle...
Tout à fait, mais je pense que tout le monde peut faire une écriture calligraphique, il suffit de s'appliquer.
Oui, c'est ça, oui.
C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on écrit, on ne s'applique plus. Et puis, on a des outils qui nous permettent de ne pas nous appliquer. Un stylo, on peut le tenir n'importe comment, et il écrit toujours. Alors qu'une plume, si on la tient mal, eh ben, elle n'écrit pas. Donc, en fait, ça vient...
C'est un instrument.
Ça vient de oui, tout à fait, de l'outil qui nous impose de nous appliquer. Et donc, quand on s'applique, je pense que tout le monde est capable de faire de très belles choses.
Ouais, c'est comme, on remarque, le clavier, c'est pareil. Hein, quand on écrit avec des moufles, on écrit pas pareil. Et souvent, on écrit avec des moufles. Mais donc, ce travail de copiste... Tu le dis, il y a ce travail d'abord personnel pour toi, pour avoir des œuvres uniques, qui sont déjà elles-mêmes uniques, mais donc tu t'en mets un exemplaire à la maison. Ça va plus vite, c'est plus long que le photocopieur, plutôt, j'allais dire, ça va plus vite. C'est plus long que le photocopieur, certes, mais au moins tu as quelque chose de totalement refabriqué artisanalement, finalement.
Absolument.
À l'identique, parce que l'intérêt de la chose, c'est de le refaire tel qu'il était fait à l'époque, je suppose. Parce que est-ce que tu penses que les outils que tu utilises étaient ceux déjà qui proches des outils qui étaient utilisés
à
l'époque?
En fait, il faut savoir que tous les livres du Moyen-Âge, tout à l'heure tu parlais de moutons, donc tous les livres du Moyen-Âge ont été écrits sur de la peau de mouton ou de chèvre ou de veau. Et l'outil d'écriture du Moyen-Âge, c'est la plume d'oiseau. Tous les livres du Moyen-Âge ont été écrits avec cet outil et sur ce support.
D'où la plume.
Moi aujourd'hui, je fais aussi de la calligraphie avec des plumes d'oiseau, mais aujourd'hui, on a des plumes métalliques qui sont beaucoup plus efficaces, qui permettent une réserve d'encre supérieure.
La plume métal est arrivée à quelle époque?
Alors, les premières plumes métal vont arriver dès le XVIIe siècle, mais il faut savoir que c'est une merveille de technologie, une plume métal. Hein, on n'a pas l'impression comme ça, mais simplement la fente qu'il y a va permettre de réaliser le plein et le délier, et le trou qu'il y a va servir de réservoir. Mais ces deux inventions ne sont pas venues tout de suite. Donc les premières plumes métal, en fait, ne permettaient de faire qu'un seul trait, et puis il fallait reprendre de l'encre. Après...
On comprend que dans une vie, il en fallait du temps pour...
Oui. Après, elle a beaucoup évolué, elle s'est assouplie, et aujourd'hui, on a de très très bonnes plumes.
Ouais, notamment ceux fabriqués par Bic. Hein.
Bic, c'est
vraiment... Il a tué la plume.
Bien, il a tué l'écriture.
Donc, Cédric, un petit mot?
Non, je réfléchissais à mon expérience personnelle, mais donc je ne vais pas en parler là. Mais...
Eh ben justement, écoutons l'expérience personnelle de Cédric, on écoute.
Comment j'écris, rapport à comment je chante, rapport à mon envie de faire que ça grandissante, rapport à tous les mots qui sortent, qui se jettent dans mon micro sur 21, 29, 7. Il y a un truc à savoir, avant d'aller plus loin, je prends deux minutes pour insister sur ce point. C'est pas pour faire le coq, mais je voudrais faire taire ceux qui voudraient déjà me faire des commentaires. Ce que j'écris, ça regarde que moi. J'aime trop les taches que ça laisse sur les doigts. Ce que je chante, que personne y touche. J'aime trop le goût que ça laisse dans la bouche. Les mots qui sortent et les mots qui rentrent. J'aime trop la douleur que ça laisse dans le ventre. Mon style, pour pas qu'on me le fauche, j'écris faux, je chante de la main gauche. Certains jours où le monde me revient qu'à moitié, je me réfugie sur une feuille de papier. D'autres jours où il est un peu trop grand pour moi, j'ai un micro pas mal pour amplifier ma voix. La gratte autour du cou ou assis à ma table, je suis pote avec des mots pourtant infréquentables. Ceux qui veulent se pencher par-dessus mon épaule vont se ramasser un coup de batte de baseball. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'écris, ça regarde que moi. J'aime trop les taches que ça laisse sur les doigts. Ce que je chante, que personne y touche. J'aime trop le goût que ça laisse dans la bouche. Les mots qui sortent et les mots qui rentrent. J'aime trop la douleur que ça laisse dans le ventre. Mon style, pour pas qu'on me le fauche, j'écris faux, je chante de la main gauche. Quand mon cerveau est vide, que plus rien ne s'y passe, ou à l'inverse, quand il ne tient plus en place, comprenez bien que je suis le seul concerné. C'est moi qui paye, c'est moi qui ai les yeux cernés. Je suis déjà au courant que j'ai des influences, mais je suis certain que vous saisissez la nuance. Moi, je ne suis nulle part dans l'ordre alphabétique. Quoi? C'est le troisième refrain, il faut encore que j'explique. Ce que j'écris, ça regarde que moi. J'aime trop les taches que ça laisse sur les doigts. Ce que je chante, que personne y touche. J'aime trop le goût que ça laisse dans la bouche. Les mots qui sortent et les mots qui rentrent. J'aime trop la douleur que ça laisse dans le ventre. Mon style, pour pas qu'on me le fauche, j'écris faux, je chante de la main gauche. J'écris faux, je chante de la main gauche. De la main gauche.
Et j'ai des gains de boxe ce soir.
T'as des gains de boxe. Donc j'écris faux, je chante de la main gauche de
Doremus. Voilà, donc... un album qui s'appelait Jeunesse se passe, qui est 2007.
Voilà, c'était son premier album en fait. Il en a sorti un deuxième de plus. Allez, dis donc Michel, quand tu recopies comme ça les textes, quand on voit une écriture d'aujourd'hui, donc recopier, ça aura peut-être moins d'intérêt d'ailleurs pour toi, parce que ce que tu recherches, c'est l'écriture singulière. Alors au Moyen-Âge, ok, mais alors, des fois, c'est pas facile de s'y retrouver dans l'alphabet utilisé au Moyen-Âge, parce que ça a beaucoup évolué, l'écriture, depuis le Moyen-Âge.
Alors effectivement, alors il faut pas parler d'écriture du Moyen-Âge, mais ce sont les écritures du Moyen-Âge. Dans le Haut Moyen-Âge, on va simplifier un petit peu, la première écriture, c'est l'écriture onciale. En fait, elle ne s'écrit pas tout à fait de la même façon en Espagne, en Italie, en France, en Angleterre.
C'était essentiellement du latin
Alors, il y avait beaucoup de latin, mais il y avait également des langues régionales. D'ailleurs, les manuscrits, la chanson de Roland, c'est un manuscrit qui est écrit en vieux français, en gascon. En fait, c'est le français qui se parlait à la cour d'Angleterre du temps d'Aliénor d'Aquitaine. Donc, Aliénor d'Aquitaine qui a été reine de France d'abord et ensuite reine d'Angleterre.
Il ne faut pas oublier qu'après Guillaume le Conquérant, pendant un peu plus d'un siècle, ils ont parlé français à la cour. Et d'ailleurs, la devise... Soit qui mal y pense est en français.
Oui, oui. Donc on trouve bien sûr beaucoup de latin, mais également des langues régionales. L'arrivée de Charlemagne en fait a imposé une nouvelle façon d'écrire. On appelle ça l'écriture caroline. Avec le moine Alcuin, il a implanté des écoles. Donc il n'a pas inventé l'école, mais il a implanté des écoles d'écriture de façon à ce qu'on puisse lire la même chose à travers tout l'Empire. Donc cette écriture a duré à peu près jusqu'au XIe, XIIe siècle.
D'où la Caroline.
La Caroline, tout à fait. Hein. Carolus Magnus a donné le nom à la Caroline. Et à la fin du Moyen-Âge apparaît l'écriture gothique pour une raison très simple, en fait, pour une raison économique. Le parchemin étant très très cher, la Caroline étant une écriture ronde, prenait beaucoup de place sur la feuille. Et en fait, on a brisé l'angle et ainsi on a pu écrire plus de lettres dans la ligne. Et donc, utiliser moins de parchemin. C'est l'écriture gothique. Alors c'est pareil, hein, la gothique, il existe différents types de gothique, mais ce sont les trois grandes écritures du Moyen-Âge, la onciale, la caroline et la gothique.
Bah, tu as été obligé d'étudier tout ça, toi, parce que du coup, il y a un trait spécial, et puis il y a un geste, forcément.
Tout à fait. Alors, bon, je suis autodidacte complètement, hein, mais je vais voir beaucoup d'expositions de manuscrits, je traîne beaucoup dans les fonds anciens de bibliothèques. Ça m'a amené à la Bibliothèque royale de l'Escorial à Madrid, ça m'a amené au Trinity College à Dublin, voir un livre magnifique, le livre de Kells. Ça m'a amené en Allemagne, au Luxembourg.
Attends, avec tout ce que tu as accumulé là, comme culture, comme connaissance, et on va t'attacher dans le studio, puis on va te faire parler, parce qu'il faut qu'on le transmette tout ça. Et, d'ailleurs, on va en parler parce que, bien sûr, la transmission, ça fait partie, on l'a dit, un des points qui te tient aujourd'hui à cœur, quoi. Donc ce travail de copiste, à un moment donné, à partir de quel moment il commence à prendre un petit peu moins de place dans l'ensemble de ta activité, de ton activité liée à la calligraphie?
Alors il faut savoir que j'ai toujours un manuscrit en cours, même actuellement. Je suis en train de recopier le texte de la chanson de la croisade contre les Albigeois, qui est également un texte en occitan. Hein. On parle beaucoup en ce moment, puisque c'est le 800e anniversaire de la croisade contre les Albigeois. Donc je suis en train de
Tu le fais pour toi ou pour...
Pour moi.
Ah, voilà. Mais est-ce que tu as déjà une commande?
Oui, alors... Oui, bien sûr, j'ai déjà eu des commandes. J'ai même déjà eu des achats de manuscrits, alors qui ne sont pas à vendre. Mais bon, quelquefois, il y a des offres. Voilà, mais vraiment, il n'y a pas de côté lucratif dans ma passion. C'est vraiment, au départ, c'est pour moi que je
Mais c'est quand même une passion qui commence à prendre. On remarque souvent les passions, c'est ça, ça te prend quand même... prendre part de ta vie, parce que tu travailles et puis quand tu as fini le travail, moi d'ailleurs quand j'ai fini le travail, ben je vais des fois me balader et je te rencontre toi en train de travailler, alors que tu as toi-même fini ta journée de travail.
Ouais, en fait j'écris beaucoup le soir, la nuit, voilà. Et donc tu parlais de ce moment où de copiste je suis devenu calligraphe. En fait ça s'est passé d'une manière un petit peu particulière. Je participais à un salon de calligraphie, donc j'avais exposé tous mes manuscrits. Et les gens passaient devant un petit peu comme devant des livres de poche et je m'ennuyais et je me suis mis à écrire pour moi. Et à un moment, j'ai levé la tête et j'ai vu un petit attroupement de gens qui me regardaient écrire. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris conscience que en fait, les gens voulaient me voir écrire. Et donc, je me suis mis à développer une calligraphie en public. Donc, mon jardin secret, ce jour-là, est devenu jardin public. Et le calligraphe est né. Et
est-ce que tu avais conscience que ça pouvait, comme ça, passionner les gens? Ça pouvait aussi porter un intérêt comme ça, non?
Pas du tout.
Tu te croyais seul comme ça, avoir cette passion?
Oui. Et je pensais vraiment que l'important de ma passion, c'était justement le travail de copiste. Et aujourd'hui, étant calligraphe, je m'aperçois que la calligraphie, c'est quelque chose qui nous touche à tous. C'est vraiment viscéral dans l'histoire de l'homme. Et d'ailleurs, j'ai pu l'expérimenter un petit peu partout dans le monde, puisque on va rêver un petit peu. J'ai écrit sur une jonque dans la baie d'Along. J'ai écrit sur une barque sur le Mékong.
Ça, c'est les voyages. Donc, c'est ce que je te disais en introduction. Ça t'a amené dans le monde entier.
Oui, j'ai écrit
à Alors, est-ce qu'à chaque fois, parce que là, tu parles de l'Asie. Et donc, l'Asie, il y a une écriture, il y a des signes très particuliers. Est-ce que...
Voilà, en fait, j'essaye d'aller à la rencontre d'autres calligraphies, donc les trois grandes calligraphies, donc l'écriture latine telle que je la pratique, mais lorsqu'on parle calligraphie, on parle beaucoup de calligraphie arabe et de calligraphie chinoise. Ce sont les trois grandes calligraphies, bien que, je vous en parlerai à la fin, mais mon projet pour l'année prochaine, en fait, c'est de rencontrer encore une autre calligraphie, c'est la calligraphie tibétaine. Donc je compte aller au Tibet l'année prochaine. Voilà. Et donc, j'ai rencontré la calligraphie arabe en Égypte, la calligraphie asiatique au Vietnam. Et à chaque fois, en fait, bien sûr, nous n'avons pas les mêmes gestes entre calligraphes asiatiques ou arabes. Nous n'avons pas les mêmes outils, mais je crois qu'on se retrouve dans la beauté du geste.
Voici ici la triste histoire d'une lettre à la fleur de l'âge qui était tombée d'un écritoire et qu'on amputa d'un jambage. La lettre même un soir d'été faisait des heures supplémentaires quand elle pisa sur un pâté, se retrouvant le cul par terre. Voici ici la triste histoire d'une lettre à la fleur de l'âge qui était tombée d'un écritoire et qu'on amputa d'un jambage. Ça c'est bien dommage, le plus joli de ses trois pieds, en loupant son atterrissage, et le voilà tout estropié. Il rêvait d'être majuscule avant que sa jambe il ne perde, en baillant jusqu'au crépuscule et jamais devant le mot merde. Voici ici la triste histoire d'une lettre à la fleur de l'âge qui était tombée d'un écritoire et qu'on amputa d'un jambage. Oh ouais. Il n'eut jamais sa promotion une fois sorti de l'hospice. Il reçut une maigre pension pour ses bons et loyaux services. Depuis ce jour fatal, il boit, il fait du diabète et de l'asthme. Pour arrondir ses fins de mois, il bosse dans un pléonasme. Voici ici la triste histoire d'une lettre à la fleur de l'âge qui était tombé d'un écritoire et qu'on amputa d'un jambage. Oh ouais. Ce pauvre même qui était tombé, qui sent sur une tache d'encre, finit sa vie devant un bé dans la dictée d'un affreux cancre. C'était ici la triste histoire d'une lettre à la fleur de l'âge qui était tombée d'un écritoire et qu'on amputa patatata de jambage. C'était ici la triste histoire d'une lettre à la fleur de l'âge qui était tombée d'un écritoire.
Donc on vient d'écouter Machin, le groupe Machin, qui accompagnait Hubert Félix Thiéfaine dans ses quatre premiers albums quand même. Donc la chanson c'était Pauvre M. Jambiste. Alors on revient à nos voyages d'écriture avec Michel Rédal, qu'on pourrait écouter pendant des heures et des heures et des heures. Michel, la dernière fois que je t'ai vu, tu partais pour Cuba quand même.
Oui, effectivement, chaque année, je vais animer le stand France sur le Salon du Livre International de La Havane. Donc, effectivement, ça m'amène à Cuba. Alors, des démonstrations, j'en ai fait. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Égypte, du Vietnam, Cuba, mais tout récemment au Cameroun également. Voilà, donc je voyage énormément lors de salons du livre et de fêtes médiévales. Et je fais énormément de rencontres. Je rencontre des gens célèbres. Alors au départ, c'était des salons locaux hein, dans la région, puis après la France, puis l'Europe, et puis maintenant.
Ah, je vois dans les voyages que tu fais, je vois qu'il y a énormément d'abbayes, par exemple. Tu es très demandé dans les...
Ben oui, parce que en fait, très souvent, les fêtes médiévales se font dans les châteaux, les abbayes, et donc et puis bon, c'est la période médiévale, hein, donc effectivement, je vois beaucoup d'abbayes. Et d'ailleurs, parmi
mais souvent, c'est là aussi qu'on y retrouve beaucoup de choses de marques calligraphiques quand même. Quand on va dans ces lieux-là, tu dois retrouver quand même. Est-ce qu'on te montre des choses rares comme ça des...
Ah oui, tout à fait. Je vois des antiphonaires. Un antiphonaire, un antiphonaire, en fait, on parle beaucoup de musique dans cette émission, c'est ce qu'on appelle un livre de cœur. C'est le livre sur lequel était calligraphié le chant grégorien et qui était un manuscrit qui faisait 60 à 70 cm de haut afin que les moines dans les stalles puissent lire la mélodie. Donc on trouve des antiphonaires de la fin du Moyen-Âge, j'ai eu l'occasion de voir des évangélières, des bibles, un petit peu de tout.
Ah ouais. Alors, c'est marrant parce que l'écriture, alors, toutes ces rencontres et tout ça, ça t'amène aussi à des trucs un petit peu cocasses parce que je vois une photo là.
Oh là là.
Parce qu'on parle d'abbaye, on parle de grands lieux comme ça, et il y a d'autres grands lieux parce qu'on est quand même dans une région viticole, et nous, nos grands lieux, nous, chez nous, alors que avec mon accent, effectivement, ça ne le fait pas trop quand je dis chez nous dans le Languedoc. Mais n'empêche que nous, c'est la cave, le lieu privilégié.
Je vois où tu veux en venir. Donc effectivement, l'écriture, je fais toutes sortes de choses qui s'écrivent. Et ça va du bandeau internet, ça va du logo et... également de l'étiquette de vin. Et là, on va en profiter pour passer un grand, grand bonjour à notre ami Jeff.
Jeff
Escande, qui produit un vin qui a un nom absolument très beau, qui s'appelle la Pierre de l'Ange.
Et, un vin d'Aude, hein, je crois.
C'est un Minervois.
Minervois.
Un très, très bon Minervois, à base de Syrah. Et donc, je lui ai fait son étiquette et nous faisons de temps en temps des marchés où donc il propose son vin. Et à chaque bouteille achetée, je fais une calligraphie sur le carton.
Super.
Et voilà, donc c'est un...
Donc, deux raisons donc se procurer cette bouteille. Parce que même trois, alors parce que c'est Jeff, parce que c'est toi qui fais l'étiquette, et puis parce que ça va être du bon vin.
Tout à fait. Et alors, je voulais juste rajouter concernant mon côté calligraphe, ma devise en tant que calligraphe, c'est écrire est un acte d'amour. Écrire est un acte d'amour, en fait, c'est la première partie d'une phrase de Jean Cocteau qui dit « Écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. »
Ce n'est que de l'écriture, oui. Voilà. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que finalement, c'est un peu le contraire de ce que tu fais, finalement. Parce que toi, tu t'intéresses à l'écriture. Et lui, Cocteau, il le dit dans le sens de écrire. Alors, justement, est-ce que tu écris aussi? Est-ce que une fois que tu as écrit peut-être quelque chose avec ton stylo,
je suis pas auteur. Je m'y essaie de temps en temps, mais vraiment non. Mon côté, c'est vraiment la copie. Ouais.
D'accord. Et donc, on a parlé de l'exposition, de la rencontre, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais maintenant, arrive, et je pense qu'on est nés tous, quand on détient une science, quelque chose, à un moment donné, arrive le temps où on veut la transmettre. Parce qu'on est aussi dans une culture de la transmission. On reste, malgré tout, hein, le temps, la technologie, tout ça, il faut transmettre. Et toi, tu en es arrivé aussi à cette époque.
Voilà, ben en fait, c'est le troisième pilier hein, de ma passion de calligraphe.
Qui n'est pas venu, qui est venu à quel moment à peu près
Qui est venu, en fait, qui est venu lorsque je me sentais suffisamment mûr pour cela. Donc après la période de copiste, la période de calligraphe, en fait, il fallait transmettre. Alors pour ça, j'ai créé un petit outil qui s'appelle le sarment d'écriture. Nous sommes dans une région viticole. Pour me démarquer un petit peu de la calligraphie arabe qui se fait avec le kalam, avec le roseau, le bambou, moi j'ai créé avec un petit bout de bois. Et ce petit bout de bois est...
Mais tu l'as inventé ça?
Absolument, c'est tout à fait mon invention. Alors ce petit bout de bois est très très efficace puisque désormais, toutes mes démonstrations, je les fais avec. Ouais. Et il est redoutable puisqu'il ne tolère pas les fautes de gestuelle. Et donc, je me sers de ce petit objet pour faire des formations de...
Je regardais là comment Tao et Cédric sont attentionnés. Et ils se demandent, ils veulent te rencontrer pour boire et se procurer ce...
Ben, en fait, ils pourraient me rencontrer parce qu'en fait, je fais des formations de calligraphie dans des domaines absolument très divers. Alors, la calligraphie m'a amené en prison, puisque j'anime des ateliers en milieu carcéral. La calligraphie m'amène en maison de retraite, où je travaille avec des personnes atteintes d'Alzheimer, Parkinson, et remettre un objet d'écriture dans des mains qui l'ont abandonné depuis 10-15 ans, c'est toujours des choses absolument magiques et qui donnent des émotions fabuleuses. Et bien sûr,
enfants.
En milieu scolaire, donc de la maternelle.
Centre de loisirs aussi.
Oui, centre de loisirs où on travaille la maternelle juste la gestuelle. Hein, on fait des petites lunes, des petits bâtons, des petits serpents, jusqu'à l'enseignement supérieur. Là, récemment, j'étais à l'école centrale, à Château de Malabry. voilà, je fais partie d'ailleurs des amis des Elfiques, qui est un festival médiéval organisé par l'école centrale.
Et alors, le tout venant aussi, parce que tu animes des ateliers aussi.
Alors, j'anime des ateliers. Je travaille sur Montpellier en collaboration avec la Maison pour tous, Mélina Mercouri. Mais pas assez au goût des gens, parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps.
Donc, très occupé.
Voilà, donc de temps en temps, j'anime un atelier de calligraphie à la Maison pour tous, Mélina Mercouri.
C'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment tu arrives à avoir toutes ces activités en plus de ton travail. Il faut vite arrêter de travailler pour faire que de la calligraphie.
Alors surtout pas. C'est souvent une question que l'on me pose. En fait, je ne veux absolument pas que la calligraphie devienne mon gagne-pain, en fait.
D'accord, je comprends.
Et donc, je vis dans le luxe puisque la calligraphie, c'est vraiment du plaisir. C'est du plaisir qui me fait rencontrer, qui me fait voyager.
Comme nous qui animons cette émission, d'ailleurs. c'est du travail. Hein.
Oui.
Mais voilà, c'est vrai qu'on veut pas que, faut pas que ça... Mais je comprends bien le goût de cultiver des passions comme ça et d'accumuler des connaissances dans ce sens-là. Là, il se renseigne parce qu'il a peur qu'on dépasse le temps, mais vas-y.
Oui, non, parce que
il nous le dira. On a encore 6 minutes.
Je ne veux pas terminer cette émission sans vous parler d'un petit bonhomme. Ouais. Ce petit bonhomme s'appelle le Titivilus. Le Titivilus, en fait, m'accompagne depuis 30 ans maintenant. Le Titivilus est un petit démon médiéval qui est représenté dans des enluminures médiévales avec un petit sac sur le dos. Il était chargé au Moyen-Âge de se promener dans les manuscrits et de récupérer toutes les fautes d'orthographe, tous les doublons, tous les oublis. Et lorsque son sac était rempli, il allait le déverser devant le diable qui punissait le copiste. Mais les copistes du Moyen-Âge sont des gens malins, se sont fait amis avec le Titivilus, ont passé un pacte avec le Titivilus, faisaient des fautes exprès, ainsi la parole de Dieu était mal transmise, le diable y trouvait son compte, et en contrepartie, le Titivilus ne dénonçait pas le copiste. Il faut savoir que c'est le seul métier où le saint patron est un démon.
Je suis un magicien d'images. Avec des phrases de rien, j'invente des paysages. Je jongle avec les mots et je leur mets des pieds pour qu'ils s'ennuient pas trop, qu'ils aillent se promener. Je les déguise en vers et je les fais chanter. Je fais rimer l'hiver, je fais rimer l'été. Les lettres de l'alphabet, j'en fais des monuments. Ils seront bien durés, plus que les présidents,
plus que les présidents. J'habite dans les étoiles, je suis souvent dans la lune. Je préfère vivre mal, mais vivre de ma plume. J'habite la Voie lactée, sur un tout petit caillou. Pour pas être dérangé, je fais croire que je suis fou. Je suis là pour remplacer les fleurs et les oiseaux, tous les arbres coupés, la mer et les ruisseaux, la mer et les ruisseaux. On m'oubliera sûrement quand ma vie sera passée, mais moi, heureusement, je peux toujours rêver qu'avec un peu de chance, je pourrais m'allonger entre les pages blanches d'un livre de français. Et sur un petit nuage, je soufflerai aux garçons, à ceux qui sont passage, toute leur récitation. Et sur un petit nuage, j'apprendrai aux petites filles, à celles qui sont trop sages, à rire entre les lignes, à rire entre les lignes. J'habite dans les étoiles, je suis souvent dans la lune. Je préfère vivre mal, mais vivre de ma plume. J'habite la Voie lactée, sur un tout petit caillou. Pour pas être dérangé, je fais croire que je suis fou. Je suis là pour remplacer les fleurs et les oiseaux, tous les arbres coupés, la mer et les ruisseaux, la mer et les ruisseaux.
Voilà, on vient d'écouter Jean Martin. Alors c'est un disque vinyle, hein. C'est un chanteur, c'est un disque pour les enfants en fait. Mais j'ai trouvé que cette chanson allait bien avec notre émission. C'est d'ailleurs une numérisation d'un disque vinyle. On entendait un petit peu les petits craquements au cours de la chanson. Voilà, le magicien d'image. Alors, il est déjà temps de nous quitter. Il faut qu'on rappelle quand même donc, que pour aller, on a dit que tu t'appelais Michel Rédal, et c'est vrai que comme ça, il faut, comme disait Tao, ouais, mais est-ce qu'il y a un H au milieu? Est-ce que... Non, c'est Michel Rédal, Michel comme ça se prononce, M-I-C-H-E-L, Rédal, R-E-D-A-L.
Voilà.
D'accord, R-E-D-A-L, Michel Rédal, vous faites ça sur Google, et inévitablement, vous allez voir, il y en a des pages. Et il y a même des démonstrations YouTube. Il y a des petites démonstrations, donc il faut y aller. Et où on pourra te voir prochainement en démonstration?
Alors, dans la région, pas beaucoup, parce que j'ai des manifestations un petit peu partout.
Un petit peu sur les estivales, on va te retrouver.
Alors, un petit peu sur les estivales le vendredi soir.
Alors, venez surtout essayer de voir le stand de Michel.
Je mettrai ça sur Facebook.
Voilà, tu mettras les dates sur Facebook. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook la page de Michel Rédal. Et puis, il vous donne rendez-vous sur l'esplanade pendant l'été, le vendredi soir, pendant les estivales. Donc voilà, ça passe trop vite. Hein, parce
ah
que,
bah oui, c'était très particulier ce soir, c'était passionnant. Merci Michel.
Merci à vous.
En tout cas, je pense que c'était le premier rendez-vous, mais ce n'est pas le dernier. On se retrouvera. Et puis quand tu fais un voyage, tu viendras nous raconter un petit peu, puis on poursuivra cette exploration l'exploration de ta passion en fait. Parce que franchement, et on se croise et tout ça, mais on n'en avait jamais autant discuté. Et là, je suis impressionné par la mine de connaissances que tu as accumulée autour de ce travail.
Je suis en train de bougir.
Non, mais c'est passionnant. Et puis moi, je commence à comprendre comment on peut plonger dedans, quoi, parce que c'est effectivement. Et puis surtout quand on voit là où ça te mène, quoi, les rencontres que ça te fait faire, c'est extraordinaire. Mais il faudrait que tu viennes continuer de nous raconter, parce que je pense que là, on est même pas au dixième de ce que tu peux nous raconter.
Dès que je parle de l'écriture, je suis un gros bavard.
Ah, mais en tout cas, pour une émission de radio, c'est très bien d'être bavard.
Oui, c'est vrai.
Donc, merci Michel.
Margot, c'est de quoi il parle.
Michel, merci en tout cas de ton passage. On se le dit, ce ne sera pas le dernier. Cédric,
merci. Bonne semaine.
À la prochaine. Au revoir et bon vagabondage.